Gabriela Oxner, Jeannie Belli. Vous étiez censé passer ici à Fribourg pour notre cycle de conférences. Malheureusement, à cause du coronavirus, on n'a pas pu se voir. Et puis, on propose de partager un petit moment avec notre lectorat du Cévil. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre sujet de recherche?
Oui, merci. Oui, avec plaisir. Je vous remercie de votre intérêt, au fond aussi de votre invitation à laquelle, malheureusement, je n'ai pas pu suivre. Mais bon, quel est mon sujet de recherche? C'est au fond un sujet apparemment très simple. C'est la question de savoir comment et pourquoi le français en tant que langue étrangère, ça fait un peu bizarre puisque le français est langue nationale aussi, mais considérant et de la pratique de l'enseignement, le français est une langue étrangère. Comment est-ce que ce français a été introduit dans les gymnases de la Suisse alémanique? Et c'est une question plus simple, finalement. Pourquoi est-ce que je suis tombée sur cette question? Comme vous le saviez, je ne suis pas en premier lieu, je ne fais pas de recherche. Surtout, je suis enseignante au lycée, je suis didacticienne à l'Université de Zurich. Et je suis très, très souvent confrontée à cette question, mais pourquoi est-ce que nous devons apprendre le français? Bon, si c'est de la part des élèves, on sait, ils vous spètent un peu, mais si cette question vient de du côté des autorités ou des directeurs d'établissement à qui j'ai parlé dans différents contextes, lorsque je faisais partie de commissions, par exemple de la commission de maturité dans le canton d'Argovie, là où je surveillais la qualité des examens de maturité, et là aussi j'étais confrontée à cette question. Pourquoi le français avec de la littérature surtout? Pourquoi pas tout simplement un diplôme d'ELF, ça suffirait? Et c'est là que je me suis mise à réfléchir et que j'ai cherché des réponses. Et c'est finalement c'est cette question dont j'essaie de parler, dont je veux parler. Donc, ma question de recherche principale est celle de l'introduction du français comme discipline, comme matière obligatoire du plan d'études et aussi du programme des lycées suisses. Des lycées alémaniques. Et maintenant, vous savez, l'école suisse n'existe pas, le lycée, le gymnase suisse n'existe pas. Donc, nous avons 26 systèmes d'éducation différents, 26 États autonomes, directeurs de leur instruction publique. Ce qui fait que mon étude est finalement une étude de cas, c'est-à-dire de quelques lycées. On a choisi les plus anciens et les plus prestigieux. Et j'ai commencé par le cas de Bâle. Donc, je vais vous parler ensuite un peu de cette étude de cas, du cas de Bâle, du gymnase de Bâle. Ça remonte. Hein. C'est un travail que finalement, je suis tombée dans le 18e siècle à Bâle. Le français, voilà, a été introduit en 1796.
Comme branche obligatoire, donc, dans les gymnases.
Obligatoire, et c'est une question importante, comme matière financée par l'État. Parce que si nous voulons définir instruction publique par le fait que ça soit gratuit, que ça soit payé par l'État, c'est-à-dire que l'État se sente obligé de fournir cette matière, cette instruction aux jeunes, ou au moins à la jeune élite. Puis il y a tout l'aspect aussi de la disciplinarisation et un aspect important, peut-être le deuxième très important, c'est celle de l'idée, mais qu'est-ce que c'est qu'un gymnase? Qu'est-ce que c'est qu'un le programme d'un gymnase? Qu'est-ce que c'est qu'un gymnasial aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? Vraiment, on avait à parler avec cet idéal humboldtien, mais est-ce que c'est Allgemeinbildung, cette notion de Bildung? Est-ce que le français peut en faire partie ou pas? Si ce que je peux dire dès le début, il n'est pas question de langue nationale.
Ah.
Eh ben, évidemment, non. Nous ne sommes pas arrivés en 1848. La Confédération telle que nous la connaissons n'a pas encore été fondée. C'est-à-dire, toutes les réflexions portent sur les cantons. Et ce qui m'a surpris surtout, c'est de voir que les discours autour du français, finalement, le français, c'est un phénomène européen. C'est-à-dire, si Bâle opte pour le français, il s'inscrit dans un contexte européen et non pas suisse. Suisse aussi, certes, ça apparaît. Mais avant tout, le canton-ville, la ville de Bâle, s'inscrit dans un contexte européen. Et là, évidemment, la langue moderne, donc le français, entre en concurrence directe avec le latin. Le français était toujours contesté par les professeurs, les véritables professeurs, les professeurs de latin, les professeurs de grec, tous les théologues, parce que c'était justement pas digne d'un lycée. Mais le français, tout court, c'était la concurrence du latin. Et évidemment, nos gymnases, le collège de la République de Genève aussi, il est issu de ces collèges de latin qui avaient pour première fonction d'enseigner le latin pour former soit le clergé, et évidemment, on avait besoin du personnel d'administration, des médecins, et bien sûr, tout ce qui est côté juridique, études juridiques. Et au cours, maintenant ça se voit très très bien au cours du XVIIIe siècle, donc on commence à discuter cette question de l'introduction du français. Et c'est le français qui finalement va introduire une autre perspective et aussi une autre finalité à cette formation dédiée et destinée à une élite.
Et comment vous avez fait pour trouver des documents qui permettent d'étudier cette histoire finalement?
Oui, j'ai commencé par ce que j'appelle les chronistes du 19e siècle, c'est-à-dire au moment où les lycées existaient, chaque année on publiait un programme et ce programme était toujours accompagné d'un travail scientifique d'un professeur, car au début, les professeurs de lycée se considéraient aussi un peu comme les collègues, leurs homologues des universités, donc eux aussi, ils faisaient, dans la mesure du possible, quelques recherches qui portaient très souvent sur l'Antiquité, sur les auteurs latins et grecs, mais souvent aussi sur l'histoire de leur établissement. C'est-à-dire, là, j'ai trouvé plusieurs articles et ensuite aussi des livres issus de ces programmes des lycées, mais c'était toujours puisque je parle de sources et littérature du 19e siècle, ils sont toujours écrits d'un auteur portant les lunettes néo-humanistes, c'est-à-dire d'un représentant en général, soit d'un directeur, soit d'un enseignant de cet établissement qui bien essaie de bien présenter l'histoire de son établissement sous un jour très néo-humaniste. Et ça, c'est aussi le problème de ma perspective de recherche. Au moment, mon directeur de thèse, c'est Monsieur Lucien Criblet de l'Université de Zurich. Il m'avait proposé de commencer avec disons, la législation moderne après les révolutions libérales de 1830. J'ai essayé, mais j'ai quand même constaté qu'il y a des lycées qui sont antérieurs et ces lycées proposaient déjà un enseignement du français. Donc pour moi, ça ne me convainquait pas. Et je me suis dit, bon, il balle évidemment, puisque le lycée est très ancien, première université de Suisse, donc ça vaut le coup de commencer la recherche par balle. Là, du coup, j'ai constaté, mais non, le français a été déclaré matière fondamentale, si vous voulez, en 1796. Donc, il faut que je commence mes recherches bien avant. Et en effet, les premiers documents que j'ai trouvés datent de 1691. C'est un livre de français, un manuel de français, publié à Bâle pour le public bâlois. Et les premiers documents juridiques, politiques, datent de 1742-45. Et c'est là que commence le discours, vraiment le débat de l'introduction du français, ou autrement dit, c'est le débat autour du financement. Est-ce que la ville de Bâle, le Grand Conseil, va accorder une certaine somme à un établissement qui s'appelle École de français, Französische Schule. Et ces Französische Schulen étaient omniprésentes dans les villes, dans toutes les villes allemandes, en Allemagne, mais aussi dans les villes germanophones de Suisse. C'était une institution. Comme vous savez peut-être que, et maintenant cette introduction du français, et ça me paraît vraiment intéressant, est liée à au fond, toute une discussion autour de ce que c'est que l'école, car l'école pour tous, l'école pour la bourgeoisie croissante. la bourgeoisie, soit les petits bourgeois, la bourgeoisie artisanale, la bourgeoisie commerçante, pas forcément l'élite, parce que l'élite, elle va bien avec son école de latin. Mais il y a une couche croissante, donc nous avons toute l'industrie, la proto-industrie, les commerçants qui font leur commerce dans l'Europe. Nous avons la production des rubans de soie qui sont un succès énorme, la richesse à Bâle, les banques et tout. Et finalement, au début, je retourne au début, les écoles élémentaires en quelle fonction former le chrétien, c'est-à-dire les enfants apprenaient à lire, mais surtout ce qui est imprimé, et ils apprenaient à chanter. Donc, c'était vraiment la fonction de la religion. Il y a aussi la fonction de la disciplinarisation, dans le sens qu'ils doivent apprendre à rester assis, à obéir à une autorité, etc. Et puis, il y avait les écoles du latin, où c'était le latin pour accéder à tout ce qu'il y avait comme science, théologie, etc. Mais entre les deux, il n'y avait rien. C'est-à-dire, il y avait le très basique, il y avait l'élite en latin, ce qui n'était pas utile et utilisable dans la vie d'un commerçant ou d'un artisan qui fabriquait pas des à tisser ou des choses comme ça. Et qu'on a introduit cette Sprengschreib- und Rechenschule, c'est-à-dire une école où ils apprenaient à écrire, c'était déjà autre chose, et à calculer, un peu de maths. Donc ce qui était utile et nécessaire pour leur métier, évidemment, hein, pour les petits commerçants, c'était important, pour les artisans, c'était important de savoir écrire, de savoir calculer. Et puis, une suite à ça, c'était la discussion autour du français. On avait besoin de français parce qu'on exportait pratiquement tout en France. Et c'est justement une des questions qui m'intrigue, à laquelle je réfléchis beaucoup. Est-ce qu'on dit que les maths, c'est une matière utilitariste? Est-ce que savoir écrire, c'est utilitariste? Non, ça fait, c'est la base. Mais dès qu'on parle d'introduction du français, ça devient utilitariste dans une perspective néo-humaniste où c'est mauvais, méchant. Ça se fait pas. Il y a même des mots un peu comme proches de la notion de sale. Salir même l'enseignement du lycée par le français. Donc il y a des expressions très très fortes qu'utilisent les néo-humanistes. Mais au fond, vous avez tout à fait raison, disons que tout compte fait, c'est économique, c'est un discours économique. Mais je me demande si on a le droit de. Si on a le droit d'utiliser le mot ah, c'était économique, parce que dans notre conception de l'homme, de l'être humain, de Pestalozzi, de Humboldt, est-ce qu'il faut, c'est négatif lorsque c'est utile. Parce que, numéro un, tout le 18e siècle, ce siècle rationaliste, était bon, tout était basé sur la rationalité et tout ce qu'on faisait, le latin inclus, c'était pour l'utilité publique, hein, le Gemeinwohl. Tout devait s'insérer et s'inscrire dans ce.
Alors, par rapport à l'économie de l'époque, donc
Pas
ça
seulement,
correspondrait à... Voilà.
c'était une notion beaucoup plus large. C'était, et là, c'est peut-être ce qui me fascine dans cette recherche. Ce n'est pas une recherche avant tout pédagogique ou didactique dans le sens didactique du français. Ça entre un peu lorsqu'on lit les documents, c'est-à-dire il y a aussi des prescriptions, et là c'est très clairement qu'on favorisait l'expression orale. Il y a aussi les consignes qu'on faisait au maître de langue, qui devait bien travailler sur la prononciation. Ça, c'était vraiment, pour le 18e siècle, c'était vraiment l'expression orale, c'était la conversation qui était vraiment au premier plan, c'était ce qu'on demandait, ce qu'on demandait, ce qu'on voulait. Ce qui est évident, mais aussi rédiger des lettres, des quittances, des lettres commerciales, et ce qu'il y a de plus sympa, de plus drôle, déjà dans ce petit manuel du XVIIe siècle, il y a des modèles de lettres. Et là, il faut justement, comment est-ce que les jeunes Valois apprenaient le français? On les envoyait en France et en Suisse romande. Mais très souvent, déjà à l'âge de 11, 12, 13 ans, donc au début de la puberté, ce qui est un âge à risque, donc on avait très souvent des problèmes avec l'obéissance, avec la discipline, avec le comportement moral de ces jeunes hommes. Et Donc, ça coûtait cher aux parents et c'était un danger moral. Donc, le premier discours de légitimation porte sur les finances, c'est-à-dire l'État doit soutenir les parents dans la formation de leurs enfants, de leurs garçons, de leurs fils, parce que cette formation à l'étranger coûte cher, mais il y a aussi le risque moral. Et en effet, dans ce petit manuel de la fin du XVIIe siècle, il y a une lettre standard, plusieurs lettres standards, une qui dit « Cher papa, je suis bien arrivé », une deuxième lettre « Je me porte bien, je travaille consciencieusement, tout se passe au mieux », et puis un type de lettre disant que « Cher père, je vais retourner bientôt, je te prie d'ores et déjà de m'excuser mes fautes morales que j'ai commises ici, loin de toi, de ta bonté ». Donc, c'était connu dans ces risques. Et justement, un des arguments, évidemment prononcés par les pasteurs, le pasteur de l'Église française, mais finalement repris aussi par Isaac Iseline et d'autres, c'était vraiment l'intégrité morale de la jeunesse. Donc, vaut mieux qu'ils restent à Bâle et qu'ils apprennent correctement le français à Bâle. Et puis, mais quand même, c'était à partir de 1760-66, on a discuté de l'introduction d'une école française, mais disons dans les lieux du lycée lui-même, c'est-à-dire en rapport avec le lycée. Cela n'a pas été réalisé, mais on a introduit le français au lycée, surtout pour garder les lycéens au collège, pour éviter qu'ils quittent le collège, parce que si on avait une centaine d'élèves en sixième, il en restait 3 à 5 en sixième. Et tout le reste quittait le lycée. Normalement après la quatrième, la cinquième. Donc on a introduit le français dans les deux dernières classes pour qu'il reste. Très économique, puisque les professeurs dépendaient justement des contributions des élèves. Donc c'est étroitement lié à la politique et comme j'ai déjà dit, c'est lié à cette sorte de triangle et ce sont plusieurs chercheurs qui le disent aussi, par exemple Fritz Osterwalder qui dit aussi, l'instruction publique est née dans la discussion philosophique, politique, dans les sociétés tellement typiques du XVIIIe siècle, quels sont les rôles de l'État, de l'éducation, de la société, des parents, des gens, du peuple, du public en général, et c'est comme un triangle, c'est-à-dire la société et son gouvernement, et quel est le rapport et le rôle de l'éducation dans ce triangle. Et il y a aussi, bon, les élites savaient aussi, si on veut instaurer, établir une république, il faut former le citoyen. C'est-à-dire, on peut aussi considérer, ou Daniel Treuil en le dit dans beaucoup d'articles, et d'autres chercheurs aussi. Maintenant, nous sommes dans le domaine des curriculum studies, hein, on forme le citoyen. Donc, le rôle de l'école publique serait de former le citoyen aussi en tant que futur travailleur, ouvrier, quoi que ce soit. Sinon, on prend toutes les femmes qui devaient apprendre à bien tous les arts, etc., ou les dessins qui étaient importants pour l'industrie du tissu, etc. Donc, et c'est là que sont nées non seulement les idées autour de l'école, mais aussi les idées concernant la structure et l'organisation de l'État en tant que république, démocratie, dans une idée du libéralisme, et que c'était discuté, c'est comme indissociable. Et pour moi, et ça c'est peut-être un peu osé à le dire, mais ce discours se sent formé autour du français, autour des débats autour de l'introduction de la langue française. La question donc, est-ce que l'État devrait aussi payer pour les cours de français? Donc en 1817, on a rediscuté cela. Et puis ce programme, cette vision s'exprime à travers finalement ce tableau horaire. Hein. Il y a Je ne sais pas, dans le total sur les 6 années, il y a presque 200, mais il y a la grande partie, c'est le latin, c'est le grec. Plus de la moitié des cours sont consacrés aux langues, donc une grande partie au latin, mais puis il y a déjà le français et puis l'allemand. Et cela exprime quand même un peu la valeur attribuée à chaque discipline. Et eux, ils écrivent, et c'est uniquement dans les manuscrits, ça ne se trouve pas dans dans ce qui est les versions imprimées. Il dit, nous sommes bien conscients qu'on ne peut pas régler cela de manière mathématique et que nous sommes bien conscients du fait que ce sera peut-être bientôt à refaire. Ce n'est qu'une proposition, il faut faire quelque chose, mais finalement, cette composition de ce tableau, c'est toujours une affaire provisoire qu'il faut toujours négocier. Peut-être que chaque époque doit renégocier ce plan. Et c'est là, vous m'avez aussi demandé, mais quel est le lien avec notre époque actuelle? Mais justement, on va entamer la révision des programmes de maturité cet été, ou au mois d'août, au mois de septembre. Chaque génération, probablement, doit se poser ce genre de questions. Et c'est absolument fascinant de participer, d'observer ce genre de réflexion pour le début du 19e siècle, voire même la fin du 18e siècle. Et là, la société et les responsables s'étaient posé exactement les mêmes questions. Et pour moi, c'est aussi la valeur des recherches historiques. On peut dire pour le 18e siècle, tout était utilitariste. Puis, il y a eu il y a eu le néo-humanisme. Et là, évidemment, c'était beaucoup plus idéal. Donc, il faut former l'esprit, il faut former, l'être doit se former lui-même. Il faut pas, l'être appartient à soi-même, c'est la liberté aussi. Et toute cette conception ne forme pas en vue de, ça ne va pas. Il faut former l'être humain pour qu'il devienne un être humain à part entière. Donc, toute pensée utilitariste était proscrite. Et ce qui est intéressant, c'est que tout au long du 19e siècle, les langues modernes luttent pour leur acceptation. Et c'est le premier professeur de français au lycée qui était très reconnu. C'était un Lausannois, Alexandre Vinet. Et lui, après 20 ans de service au lycée de Bâle, après il est devenu professeur à l'université de Lausanne. Pour lui, c'était la littérature. C'était l'enseignement, les études de la littérature qui constituaient une part essentielle de l'enseignement gymnasial du français. Et donc là, on peut observer pendant cette période fin 18e siècle jusque dans les années, disons, 1830, vraiment un passage de cet enseignement à visée communicatif, vraiment c'était un enseignement communicatif, vers une autre perspective qui était celle d'une formation plus culturelle, plus générale, littéraire, former des esprits, philosophique. Et c'est lui qui a écrit un texte dans la rétrospective, au moment où il quittait Bâle, que ce qu'il avait essayé de faire à Bâle, c'était justement d'enseigner le français d'une autre manière. Et c'est là que je suis en train de travailler là-dessus. Et cela me paraît quand même très important aujourd'hui. Et là, c'est une des théories finalement des qu'est-ce que c'est qu'une discipline scolaire. Elle comporte toujours plusieurs éléments. Et nous aussi, nous avons les éléments plutôt pratiques, communication, et nous avons l'élément littérature. Et c'est contesté actuellement. Et je trouve que nous sommes vraiment, je dirais, invités, peut-être obligés, de discuter aussi actuellement notre conception du français enseigné au lycée. Est-ce que nous allons poursuivre la perspective plutôt, je dis, CECR, ce qui serait aussi la stratégie des langues de la conférence des directeurs de l'instruction publique qui disent stratégie des langues, CECR comme base, côté qui souligne vraiment le côté pratique, communication des langues modernes. Ou bien est-ce qu'on va plutôt penser dans finalement, ce qui est assez intéressant, c'est la même conférence qui a créé ce document, c'est celle de la loi et des règlements de l'ordonnance sur la maturité qui doit préparer aux autres études, la maturité préparée aux autres études, le certificat donne l'accès aux autres écoles, préparer aux études et aussi former de jeunes citoyens. Les capacités d'assumer des responsabilités, peut-être un peu plus de responsabilités dans la société. Et les deux nécessitent, à mon avis, un autre angle, une autre direction dans l'enseignement du français. Donc moi, maintenant, je retourne au début, je suis didacticienne du français secondaire 2, surtout de lycée. Nous avons encore d'autres buts, d'autres objectifs à poursuivre. Et c'est vraiment cette préparation, soit aux études universitaires, par exemple par rapport à la lecture de très critique et très analytique de textes, aussi par rapport à la formulation de textes, mais aussi par rapport à la culture générale. Et je trouve pour moi, par exemple, la littérature africaine est très importante. Il faut élargir l'horizon, il faut former aussi de jeunes, une jeune élite, si je me permets d'utiliser ce mot, capable d'empathie, mais qui aussi une très très large, qui dispose de très larges compétences interculturelles. Donc, alors là, c'est la même discussion. Ça, moi,
Merci beaucoup.